Voilà, nous venons d'entendre les trois lectures que Nicolas et Cécile ont choisi de partager avec nous ce soir, et avec une demande, on en a parlé quand on a préparé, en se voyant plusieurs fois pour préparer ce baptême, avec une demande, en tout cas un souhait, c'est que la thématique de ce qui puisse être partagé, ce soit autour de jouir de la vie. Jouir de la vie. C'est ce que chacun de nous, on a au fond de nous-mêmes comme désir le plus profond. Pouvoir aimer avec passion, pouvoir profiter pleinement de chaque instant qui passe, pouvoir avoir une vie qui porte du fruit, c'est ce que nous désirons chacun. Et puis en même temps, ce n'est pas forcément évident de le vivre. Nous avons parfois de la peine à jouir pleinement de la vie. Et je me suis dit en préparant cette prédication qu'il y a peut-être trois raisons qui font qu'on a de la peine à jouir pleinement de la vie. La première raison, c'est que d'abord, dans nos propres existences, la vie n'est pas toujours facile. Il y a parfois des événements qui surgissent, qui sont douloureux, des ruptures, des échecs. Ce n'est pas que des cadeaux que nous donne l'existence. Parfois, nous-mêmes ne sommes pas toujours un cadeau à nous-mêmes. Parfois, on fait des choses que l'on regrette ou on dit des choses que l'on regrette. Parfois aussi, au fur et à mesure que l'on vit, on trouve qu'il y a bien des désillusions qui surgissent. Voilà. La première raison qui fait que nous avons souvent de la peine à jouir de la vie, c'est que la vie est difficile et éprouvante. Elle n'est pas toujours un tapis de rose sur lequel on marche tranquillement. Deuxième raison, c'est qu'on vit dans une société qui ne nous aide pas par rapport à cela. Une société qui nous met la pression parce qu'elle nous donne un impératif qui est « tu dois jouir de la vie, tu dois profiter de chaque instant, tu dois ressentir à chaque instant que ce que tu vis, ça vaut la peine d'être vécu, que c'est intense. Tu dois avoir des émotions, des sensations. Si tu n'as pas ça, alors c'est que ça ne vaut pas la peine, alors c'est que c'est raté. » Et comme nous savons que nous n'arrivons pas à vivre en permanence dans l'euphorie ou dans la tension émotionnelle, eh bien nous en sommes assez rapidement frustrés. Et on est un peu comme des drogués en fait de l'émotion. On sait bien qu'on ne peut pas l'avoir tout le temps, et en même temps, on est comme dans un état de manque dès qu'on ne l'a plus. Et tout ce qui est banal ou médiocre nous paraît être à côté. Et ça ne nous aide pas à jouir pleinement de la vie. Et puis troisième raison, le monde autour de nous nous donne un remède. Il nous dit sans cesse, de différentes manières, pour que tu sois heureux, pour que tu jouisses de la vie, eh bien pense à toi d'abord. Alors on peut se dire, c'est normal de penser à soi d'abord, mais on entend bien que derrière cette phrase peut se cacher bien des illusions. Sur le versant négatif, c'est pense à toi d'abord avant les autres, nous d'abord. Et on sait combien ça peut susciter des idéologies d'exclusion de l'autre. Et sur le versant positiviste, c'est cette quête narcissique. Mets-toi au centre, pense à toi, replie-toi sur toi-même, fascine-toi. On pourrait presque dire, trouve en toi ce qui fait ton propre salut. Trouve en toi ta justification. Et en fait, c'est une charge énorme qui nous est donnée parce qu'elle pèse sur nous. Et si nous n'y arrivons pas, si nous sommes trop vieux, trop lents, trop laids, trop pauvres, pas adaptés, trop jeunes, trop ci, trop ça, eh bien finalement, ça devient un poison, parce que nous n'arrivons pas à répondre à cet impératif qui est d'être soi-même à soi-même, celui qui se donne un sens à sa vie. Alors peut-être vous dites, oh là là, il est en train de nous déprimer là, on est venu pour passer un bon moment quand même. Le culte, de manière générale, c'est un moment qui est là pour recharger nos vies et pour nous faire du bien et pour qu'on reparte nourri dans la semaine, et puis on est autour de Jacques, et puis c'est un moment de fête, et voilà que le pasteur, il nous dit des choses, en gros, vous souhaitez jouir de la vie, mais vous ne pouvez pas, vous n'y arriverez pas, etc. C'est pas du tout ça que je voudrais dire. Parce que le culte, c'est un moment où est partagée une bonne nouvelle. Et une bonne nouvelle, en particulier, c'est de se dire que nous ne sommes pas condamnés à ne pas arriver à jouir de la vie. Au contraire, je pense fortement que la Bible nous donne ce qu'il nous faut pour jouir pleinement de la vie. Et les trois textes que nous avons entendus, merci Jacques et Cécile de les avoir choisis. Le premier texte, C'est un extrait du Cantique des Cantiques. Alors c'est un vieux texte, c'est attribué au roi Salomon. Le roi Salomon, il a régné aux alentours du Xe siècle avant notre ère, c'est-à-dire il y a 3000 ans. Donc un autre monde, on pourrait dire, une autre culture, d'autres références, et en même temps, des hommes et des femmes comme nous, qui vivent les mêmes émotions, les mêmes sentiments. Et le Cantique des Cantiques, c'est un long chant d'amour entre deux personnes qui s'aiment et qui passent tout le livre à s'attendre, à s'espérer, à se retrouver, à être malheureux quand l'autre n'est pas là. Voilà, c'est un grand chant d'amour. Alors dans l'histoire de l'Église, le Cantique des Cantiques, souvent, les théologiens ont tenté d'en faire une allégorie en disant, en fait, ça parle des relations entre Dieu et son peuple, ou entre Jésus-Christ et l'âme du chrétien. Peut-être. Mais en tout cas, quand on lit le texte, ça parle de l'amour entre deux personnes concrètes, dans la passion. Et je trouve très intéressant de se dire, voilà, au cœur de l'Écriture, il y a un grand chant d'amour entre deux personnes. C'est-à-dire, un des désirs profonds que nous avons, aimer, se trouve valorisé en plein cœur de la Bible. La Bible parle de nos désirs. Et elle en parle avec jubilation dans ce texte. Et puis juste après, on a lu un extrait du livre de l'Ecclésiaste. C'est un livre qui est aussi attribué à Salomon, donc contemporain, on pourrait dire. Alors c'est un livre qui a une tonalité assez différente, parce qu'il peut paraître un peu cynique par rapport à la vie, un peu désabusé. Vous savez, c'est ce livre qui commence par la fameuse phrase « Vanité des vanités, tout est vanité. Rien de nouveau sous le soleil, tout se vaut. » Voilà. Ça peut paraître un peu décourageant. Moi, je trouve que c'est un texte très intéressant parce que c'est un texte lucide, en fait, sur la vie, qui nous dit, voilà, la courte vie, le bref temps que nous avons dans notre vie par rapport à l'histoire de l'univers ou à l'histoire du monde, eh bien, et c'est l'extrait que, Nicolas, vous avez choisi, eh bien, l'Ecclésiaste nous dit, ben, profites-en, jouis de la vie avec la personne que tu aimes. C'est le texte que nous venons de lire. Mange et bois comme si tu vis un temps de fête. C'est-à-dire que ton quotidien soit un temps joyeux. Ne passe pas ta vie à te lamenter. Profite au mieux de la joie que peut te donner ton existence. Je trouve important aussi que ce texte, pareil, en plein milieu de l'Écriture, nous parle de cela. Que chaque instant puisse être saisi pour ce qu'il est. Et je trouve très important de nous dire à travers ça que la Bible, ce n'est pas un livre de morale, ce n'est pas un livre de condamnation, ce n'est pas un livre d'exclusion, même si ça a souvent été lu comme ça. Même si beaucoup de chrétiens encore le lisent comme ça. Et hélas, en le lisant comme ça, font comme faisaient les pharisiens, les scribes, les religieux du temps de Jésus, qui n'ont pas cessé de condamner Jésus et ses disciples, justement, parce que Jésus et ses disciples ne jeûnaient pas, ne faisaient pas les rites de purification comme il fallait, mangeaient avec des gens qui étaient exclus, faisaient la fête au lieu de se lamenter. On a reproché, et à plusieurs reprises on le trouve dans l'évangile, à Jésus par exemple, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11, on lui reproche de ne penser qu'à manger et boire du vin. C'est-à-dire on reproche à Jésus, en gros, de vouloir jouir de la vie. C'est-à-dire, pour le dire autrement, le cœur de la foi chrétienne, c'est jouir de la vie. C'est pas être obnubilé par essayer de condamner tous ceux qui essayent d'être heureux. C'est au contraire encourager cette jubilation, on pourrait dire. La foi chrétienne, c'est un hymne à la vie, et donc à la joie. Et à la joie à vivre jour après jour et chaque jour. Et c'est possible. Et l'évangile de Jean, troisième lecture, nous dit comment. L'évangile de Jean, dans ce passage célèbre, c'est une image que nous donne Jésus, un cep de vigne, les sarments qui sont sur le cep de vigne, sur le tronc, et puis les fruits que donnent les sarments. C'est une image rurale, mais qui, même si la plupart d'entre nous ont une culture plutôt urbaine, nous parle encore quand même. Un tronc, des branches, des fruits, c'est une très belle image que donne Jésus de la vie. Et je voudrais partager avec vous le fait qu'il me semble que cette image que donne Jésus, ça répond justement aux trois dimensions qui nous empêchent de jouir pleinement de la vie. Première dimension dans cette image, c'est que les sarments, Jésus dit dans le passage, vous êtes les sarments. Donc dans l'image, nous sommes les branches. Jésus nous dit dans cette parabole, voilà, le sarment, la branche, eh bien, elle n'est pas toute seule. Si elle est toute seule, isolée, elle sèche, elle ne sert plus à rien, elle ne vit pas. Elle ne trouve sa vie que parce qu'il y a quelque chose avant elle, c'est le tronc, et il y a quelque chose après elle, c'est le fruit. Pour le dire autrement, là où notre société nous dit que c'est à chaque instant que nous devons essayer de profiter de l'intensité, l'Écriture nous aide à prendre du recul par rapport à ça, et à mettre en perspective. Tout ne se joue pas tout le temps en permanence dans l'instant que nous vivons. Nous sommes précédés, et nous sommes suivis, à la fois par des générations, aussi par des paroles d'amour, et le baptême, c'est l'occasion de dire à Jacques qu'il a été accueilli avant même de le savoir, ça le précède. Et c'est ça qui permet de vivre jour après jour, et dans une espérance, quelque chose qui est devant nous. Nous sommes portés par une promesse derrière nous, et une espérance devant nous. Ça relativise le temps, pas dans le sens où il n'aurait plus d'importance, le temps quotidien, mais dans le sens où il n'est pas le temps unique. Nous sommes pris dans une dynamique de vie. Et l'image porte cela. Et c'est une sacrée libération par rapport à l'impératif de vivre simplement dans le présent. Deuxième dimension de cette image du sarment, c'est que le sarment, pour porter fruit, il doit être uni au cep. Cette dimension d'être uni, demeurer uni, l'expression arrive dans les 11 versets que nous venons de lire, elle arrive 10 fois. Donc c'est dire que c'est central dans ce texte, être uni au tronc. C'est-à-dire ne pas être tout seul, avoir quelqu'un d'autre qui vient nous donner la vie, nous donner sens, donner de la sève, nous aider à porter du fruit. Nous ne sommes pas seuls. Par rapport à cette société qui a cette injonction de dire tout seul, tu dois essayer de faire ton salut, et bien là encore, ça nous libère de dire je ne suis pas tout seul. Il y a d'autres que moi, et ces autres que moi qui peuvent donner sens et aider à mettre en perspective. Et puis troisième dimension, dans l'image, Jésus dit le cep de vigne, c'est moi. C'est le Christ, le cep de vigne. Dans la foi chrétienne, c'est ça l'essentiel. C'est que cette vie qui est donnée, elle est donnée par le Christ. La foi, ce n'est pas autre chose que d'être uni à Christ, d'entretenir cette relation proche parce qu'elle nous nourrit, parce qu'elle nous donne de la joie et parce que même quand nous traversons des moments difficiles ou éprouvants, nous savons qu'il chemine avec nous et qu'il continue à nous porter et à nous donner de pouvoir jubiler. Voilà, c'est une très belle image en fait, qui est presque une aide, enfin c'est pas presque, non j'enlève le presque, c'est une aide et une libération par rapport à cette difficulté que nous avons à jouir pleinement de la vie. Pour jouir pleinement de la vie, voilà, se mettre en perspective, être avec d'autres et pouvoir être unis au Christ. Alors je pourrais m'arrêter là, mais j'ai encore envie de vous dire deux choses qui me paraissent essentielles à la lecture de ce texte. La première chose, très importante, c'est que vous avez entendu peut-être ou perçu à la lecture ou à l'écoute de ce texte qu'il peut donner l'impression qu'il n'est pas qu'une belle image. Parce qu'il y a aussi l'image dans ce texte des rameaux qui ne sont plus unis au tronc et qui se dessèchent et que le vigneron vient couper, vient brûler et il s'en débarrasse. Alors on peut bien sûr comprendre que dans une image agricole, il faut couper les mauvaises branches pour que les autres puissent s'épanouir. Dans le texte, le vigneron, c'est Dieu. Et on pourrait faire une grave erreur en lisant ce texte, c'est de penser que Dieu va venir tailler parmi les sarments, ceux parmi nous qui méritent de porter fruit, et puis ceux dont il faudrait se débarrasser parce qu'ils ne seraient pas assez attachés à Christ. Et malheureusement, nous avons derrière nous 2000 ans d'histoire chrétienne où il y a tellement de bûchers, de croisades, de condamnations, d'exclusions, d'hérétiques, de morts que cette interprétation peut assez vite jaillir à notre esprit. Eh bien, je ne crois pas que c'est ça que le Christ nous dit. Et moi, je crois que ce genre de texte, celui-ci, mais il y en a d'autres qui ressemblent, ce n'est pas quelque chose qui nous dit qu'il faille trier entre les uns et les autres. Ce n'est pas une image qui sépare les êtres humains, mais c'est une image qui est donnée pour notre bonheur. Alors c'est une image qui est à entendre à l'intérieur de nous-mêmes. À l'intérieur de nous-mêmes, nous avons chacun des branches qui portent fruit et des choses qui sont belles et des choses qui ne demandent qu'à s'épanouir. Et nous avons chacun en notre cœur aussi des choses qui sont plutôt décevantes ou dont nous aimerions nous débarrasser et qui nous empêchent de vivre pleinement. Je crois que c'est cela que nous parle cette image. C'est-à-dire le vigneron, Dieu, il vient pour notre bonheur, pour nous faire grandir, tailler en nous ce qui est bon pour que ça fructifie et ce qui est mauvais pour que ça diminue. Et alors ce n'est pas une image d'exclusion des uns contre les autres, c'est au contraire une belle image qui nous fait grandir chacun pour pouvoir jouir de la vie comme un don que Dieu nous fait en nous aidant à le vivre. Ça me paraît très important de partager ça avec vous. Et puis, dernier point, tout aussi important, c'est le contexte dans lequel Jésus dit ce passage. C'est à l'intérieur d'un long discours que fait Jésus, juste avant d'être arrêté, d'être condamné à mort et d'être exécuté, par ceux-là même qui lui reprochent de dire que Dieu est un Dieu qui nous aime, un Dieu qui nous libère, un Dieu qui nous donne la vie. Alors on essaie d'éliminer Jésus, on l'élimine, on le met à mort. Il va nous rejoindre au plus profond de nos angoisses et de nos peurs, la mort. Et puis dans la foi chrétienne, au matin de Pâques, il n'est plus dans la tombe. Il est vivant, c'est-à-dire il ouvre des espaces pour que nous puissions marcher dans la vie, dans la joie, dans la paix, dans l'espérance. C'est à ce moment-là, juste avant d'être arrêté, d'être tué et de ressusciter, que Jésus nous donne cette invitation à demeurer unis en lui. C'est-à-dire qu'être uni en lui, c'est une question de vie ou de mort. Ça nous aide à vivre. Ça nous propose de vivre pleinement. Et nous avons deux moments dans la vie qui nous permettent de nous en rappeler. Le premier, c'est le baptême. On vient de célébrer le baptême de Jacques. Le baptême, le signe de l'eau sur la tête, c'est le signe de la mort et de la vie, du passage par la mort vers la vie. Pour se dire, voilà, nous pouvons être toujours dans cette dynamique de vie. Pour dire à Jacques, tu peux te mettre en marche avec nous. Le baptême, une seule fois dans notre existence. Et puis, autant de fois que nous le voulons, la Sainte Cène, le repas du Seigneur, la communion que nous allons partager, qui nous renvoie aussi à la mort et à la résurrection, qui nous met aussi en chemin de vie et d'espérance. Quand nous prenons un peu de pain, un peu de vin, c'est en mémoire de la mort de Jésus qui a donné sa vie pour nous. C'est en espérance de le retrouver en plénitude un jour dans le royaume de Dieu. C'est pour jour après jour être unis à lui. Ainsi le baptême, comme la Sainte Cène, c'est un moment privilégié où nous sommes unis à Christ. Et là où la vie parfois est tellement éprouvante pour nous, eh bien cette union nous dit « tu peux jouir de la vie quand même, parce que c'est un don de Dieu ». Là où nous avons l'impression de ne pas vivre assez intensément chaque instant de la vie, le baptême comme la Seine nous rappelle, tu es en mouvement, il y a une promesse avant, une espérance après, tu es dans une dynamique. Et là où nous nous trouvons parfois un peu seuls dans notre existence, eh bien le baptême comme la Sainte Seine, c'est l'Église rassemblée, les autres autour de nous, qui nous disent, quand nous avons besoin de l'entendre, Dieu t'aime, comme nous l'avons dit à Jacques tout à l'heure. Alors oui, on peut jouir de la vie comme un don de Dieu, même dans ce monde, même dans nos vies. Quand nous sommes unis en Christ, nous recevons la joie qui nous rend joyeux et qui nous fait porter des fruits de joie autour de nous. Alors j'espère que c'est ce que Jacques pourra vivre. C'est, j'espère, ce que chacun de nous peut vivre. Que le Seigneur nous aide à rester demeurés unis en lui. Amen.